Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'avoir choisi Studio Tamani pour vous informer. À la une de cette édition, le Mali célèbre la Semaine nationale du médecin. Cette huitième édition intervient dans un contexte marqué par des plaintes de la population sur les conditions d'accueil et leur prise en charge au sein des centres de santé. Plus de 130 écoles sur 187 ne sont plus inondées selon le ministre de l'Éducation. Mais plusieurs écoles restent encore occupées par des sinistrés à Bamako et à l'intérieur du pays. La deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité est en cours. Durant 5 jours, des experts numériques proposent des stratégies pour mieux renforcer la souveraineté numérique au Mali. Le développement de ces titres, c'est tout à l'heure. Vous avez à la présentation Moumine Sendebou. Adiaratou Traoré assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La 8e édition de la Semaine nationale du médecin a débuté le lundi 21 octobre 2024 à Bamako. Célébrée cette année sous le thème « Éthique et déontologie médicale », la semaine intervient au moment où de nombreux Maliens dénoncent leurs conditions d'accueil et leur prise en charge dans les structures hospitalières publiques. Une couleur que le Conseil national de l'Ordre des médecins dit comprendre. Pour ses responsables, il n'est pas facile de s'occuper convenablement des patients dans ces services avec des tarifs de consultation dérisoires. Notre reporter Ali Sissier a pris part à la rencontre, suivant son reportage.
Des conditions d'accueil déplorables, une prise en charge difficile, des qualités de soins qui restent à désirer. Ce sont entre autres les reproches des patients envers les médecins. À Bamako, Ségou ou encore Sikasso, certains ne décolèrent pas.
Les conditions d'accueil, de traitement, vraiment ne sont pas à la hauteur.
Les médecins ne d'autres traitent les gens bien, mais d'autres là, non, c'est un problème.
Quand tu pars voir les médecins au niveau des structures de santé publique, dans de nombreux cas, ils te donnent rendez-vous dans les cliniques. Or, les cliniques ne sont pas à la portée de tout le monde.
Quand j'étais malade, je suis allée à l'hôpital et j'ai bénéficié des soins de qualité.
Quand tu pars à l'hôpital, tu es assujetti à beaucoup de va-et-vient.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins affirme qu'il n'y a pas d'objection pour un médecin du public d'exercer dans le privé. Mais il faut que cela soit encadré selon ses responsables. Pour son président, le professeur Al-Kadri Diarra, la qualité de soins et d'accueil souhaitée par les patients dans les structures hospitalières s'acquiert difficilement.
La grande difficulté que nous avons aujourd'hui dans nos hôpitaux publics, c'est que les hôpitaux publics n'ont pas la vraie autonomie dont on parle. Aujourd'hui, tu vas dire qu'un médecin spécialiste, professeur agrégé, sa consultation, ça fait 1500 francs. On est dans un CHU. Juste à côté, il y a un CSRF ou quelqu'un que lui-même il a formé, la consulte à 2000 francs. Ce qu'on demande, on ne peut pas l'avoir avec des tarifs de ce genre. C'est pas possible.
Le Mali fait face à un manque de médecins pour soigner sa population. Les normes de l'OMS indiquent qu'il faut 23 médecins pour une population de 10 000 habitants. Or, au Mali, il n'y a presque pas de médecins spécialistes dans certains domaines dans les régions, se lamente le président du Conseil national de l'Ordre des médecins.
18h passé des 3 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Je l'ai annoncé dans les titres, la deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité a débuté ce mardi à Bamako. L'événement se poursuivra jusqu'au 25 octobre 2024. Des panels autour du thème « Renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé » ont été animés ce mercredi. Des expositions et des visites de terrain sont prévues pour vulgariser les textes et les règles en la matière. Elles sont initiées par le ministère de la Communication et l'AMRTP. Adama Mberté, ingénieur consultant en cybersécurité, est au micro de Mariam Koulibaly.
Nous sommes réellement entourés par la menace cyber dans l'utilisation quotidienne des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et cette menace nécessite réellement des mesures concrètes pour pouvoir la contourner sur notre cyberespace. Nous avons pas mal de tests qui régissent, qui réglementent réellement ce secteur d'activité. Une stratégie nationale de cybersécurité qui est en cours de validation. Nous avons également une autorité complètement dédiée à la protection des données à caractère personnel qui parle de cybersécurité, de protection des données hyper importantes. Nous avons une loi contre la cybercriminalité également. Donc nous avons un ensemble d'instruments juridiques qui nous permettent réellement de circonscrire la menace.
Autre sujet de ce journal, la fermeture de cet marché à Bitaya Bamako annoncé par les autorités le 19 septembre dernier se poursuit. La semaine dernière, les marchés de Djilibougou et Sotiba ont été déguerpis. Au même moment, ceux de Sanfil, Faladje et Niamana sont toujours intacts. Cependant, selon les responsables de ces lieux, les négociations sont en cours avec les autorités du gouvernement pour trouver une solution. Lalaïcha Wallet pour plus de détails.
Au marché à bétail des Sanfil, les vendeurs estiment que les nouveaux marchés proposés par les autorités ne sont pas prêts pour être habités. Selon eux, ces endroits sont très éloignés et exposés à l'insécurité, y compris les manques d'eau. Ils ajoutent qu'après la fin du premier délai, les syndicats les invitent à toujours rester sur place. Certains parmi eux affirment que ce déguerpissement aura des répercussions sur plusieurs activités liées à la vente des bétails. Pendant ce temps, les parcs à bétail des Faladje et celui des Niamana sont toujours sur place. Les responsables nous ont confié que des concertations sont en cours entre les acteurs de la filière bétail et les autorités pour trouver une issue définitive à ces problèmes. Il faut rappeler que cette décision a été prise pour des raisons d'ordre public, selon un communiqué du gouvernorat de Bamako.
Une série de formations a débuté ce mardi à Bamako pour le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La rencontre vise à informer et sensibiliser les personnes vivant avec un handicap sur l'éducation financière pour une meilleure inclusion sociale et financière. L'atelier prévoit de former 150 personnes vivant avec un handicap en 5 sessions dans le district de Bamako. Awa Berthe nous en dit plus.
Pour la coordinatrice du PAFEM, les connaissances en éducation financière sont nécessaires pour faire une meilleure utilisation de nos ressources. Madame Touré Fatmata Koulibaly.
Les personnes vivant avec un handicap, ça constitue une couche vulnérable qui est vraiment une cible importante de l'inclusion financière. Ce sont ces personnes-là qu'il faut aider pour faciliter leur insertion socio-économique. Après cette formation, je pense qu'ils vont être beaucoup plus outillés. Ils sortiront avec des concepts, comment bien gérer ses ressources, comment ne pas tomber dans le surendettement.
Les participants se réjouissent de cette initiative. Ali Issou Touré, membre d'Emploi Intégration des personnes en situation d'handicap, estime que cette formation leur permettra de mieux gérer leurs revenus.
Vu que nous sommes une couche très, très vulnérable, cette éducation financière va permettre à ce qu'on voit un peu plus clair. Ça va nous apporter beaucoup de contributions sur le plan financier, sur le plan sensibilisation, sur le plan marketing aussi.
Notons que l'éducation financière est un ensemble de connaissances et d'attitudes qui permettent de mieux utiliser les services financiers, expliquent les économistes.
Direction Sigo, un jeune âgé de 18 ans a été retrouvé égorgé à Sakebougouni dans le cercle de Sigo. L'incident s'est déroulé dimanche dernier. Selon le maire de la localité, il aurait été tué dans la brousse au moment où il suivait les animaux au pâturage. Alerté, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour trouver les présumés coupables de cet acte.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Ce qui nous conduit à notre rubrique On en parle. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, 137 écoles ont été libérées des eaux sur 187. Ces informations ont été communiquées hier par le ministre de l'Éducation. C'était au cours de la rencontre du comité de gestion des crises et catastrophes avec le chef du gouvernement. Malgré ces annonces, plusieurs écoles restent encore occupées par les sinistrés. À Bamako, Bla Kouchala, tout comme à Mopti, des responsables des établissements scolaires précisent que des dispositions sont en cours pour obtenir la libération complète des salles de classe avant la rentrée. Suivons leur réaction au micro de Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Il y avait à peu près 200 et quelques personnes. Au jour d'aujourd'hui, il ne reste qu'une seule grande famille. Eux-mêmes, ils sont en préparation pour quitter.
Jusqu'au moment où on vous parle là, aucune classe n'est libérée. Il y a 145 ménages. Ce que nous, on demande là, c'est de pouvoir vite libérer l'école afin de pouvoir préparer. Vous voyez que tout est sale. Désinfecter les salles, on ne peut pas recevoir les enfants dans ces conditions-là.
Au jour d'aujourd'hui, aucun sinistré n'occupe l'école de Marquena encore. Les sinistrés restants ont déménagé vers la salle de spectacle des jeunes de Bléla.
Voilà, à l'Ereso, il n'y a que deux personnes dans les écoles.
Il y a les écoles de Kona qui étaient occupées par les sinistrés. Ils ont libéré quelques écoles du Cap de Sofara. Maintenant, pour Mopti, d'autres sont libérés, d'autres non.
S'habiller le matin avant de sortir a pu sembler être une chose banale. Pourtant, cette tâche nous mettrait souvent dans l'embarras du choix au point de nous mettre en retard. Cette activité de notre quotidien nous fait perdre trop de temps sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qui ressort dans la rubrique Zoom sur présentée par Soumaïla Issamaïga.
Ça ne vous est jamais arrivé d'être devant votre armoire pleine d'habits sans vous trouver quoi porter. Ou pire, vous pointez au boulot avec des vêtements sales ou froissés. En effet, cela est le premier souci matinal de beaucoup de personnes. Et ma cousine Khadija en fait partie. C'est elle qui est toujours indécise sur ses fringues à porter et c'est elle qui n'a toujours rien à se mettre. Aujourd'hui, c'est lundi. Et voilà Khadija arrêtée devant son miroir pendant plus de 2 heures de temps, cherchant un habit à porter. Il est presque 8 heures, l'heure du travail. Khadija n'est toujours pas prête. Malgré son défilé devant son armoire, elle a finalement opté pour son habit du vendredi dernier. Chers auditeurs, sachez que pour chaque minute passée à organiser, une heure est gagnée. Alors, tâchons de bien nous organiser pour ne pas tout le temps être en retard et pour plus de responsabilités.
Avant l'introduction du débat, notez que vous pouvez nous faire parvenir nos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Nous accueillons maintenant Mariam Maïga pour nous parler du thème du grand dialogue. Bonsoir Mariam, quel est le sujet que vous abordez ce soir?
Rentrée scolaire, la date du 4 novembre se précise. C'est le thème de notre débat de ce soir. Et pour en parler, nous avons 3 invités. Patricia Dako de la Synergie des enseignants signateurs du 15 octobre 2016. Au téléphone, Lamine Soumaoro, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Badjangara. Abel Touré de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants. Et cette émission de débat se fera en langue nationale Bamanankan.
Merci, bonne présentation. Alors, chers auditeurs, c'est qui met fin à ce journal. Retrouvez nos productions sur WhatsApp au 75 99 76 19. Vous pouvez aussi réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service qu'on a fourni au 37 321. Le service est certes gratuit, mais il faut avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Merci de votre fidélité et à la prochaine. C'est grâce à l'odorat que nous avons cette capacité de sentir les odeurs qui circulent en l'air. C'est ce sens fidèle qui permet à l'homme la perception des odeurs dont les récepteurs sont localisés par le nez. Cependant, des troubles ou maladies pourraient priver l'homme de ce sens essentiel, expliquent des spécialistes de santé. Mais qu'est-ce que la médecine propose aux personnes qui en sont dépourvues? Fatoumata Kodjo s'est renseignée pour nous au compte du magazine Santé de la semaine.
L'odorat, c'est l'élément clé qui nous permet de sentir les substances aux alentours, telles que les parfums et les aliments. Mieux, il nous aide à survivre, car l'odorat joue également un rôle premier dans la détection des dangers, notamment l'odeur de gaz et des aliments pourris. Mfali Konate, médecin ORL et en chirurgie du cou et la face.
On appelle l'olfaction également les sens qui permettent d'analyser les substances chimiques présentes dans l'air et de les sentir. Donc c'est ce sens-là qui est l'odorat. Ça fait partie des sens comme la vision, comme le toucher, comme le goût. Ça permet de nous alerter contre le danger. Tu peux être dangereux, mais tu peux avoir des fuites de gaz. C'est à travers l'odorat que tu rencontres. Mais quelqu'un qui ne sent pas, il est exposé à tout ça.
Des citoyens interrogés à Kaï et Ségou sur l'importance de l'odorat estime que ce sens est comme notre plus fidèle compagnon dans la vie quotidienne. Et c'est là pour plusieurs raisons.
C'est de détecter les odeurs des aliments que l'on aime ou bien qui sont pourris. Ça nous donne de la sécurité quotidienne. Un aveugle peut sentir l'odeur du fumé. À travers l'odeur, il peut se sauver. Ça nous permet de créer des liens.
Ça permet à l'être humain de savoir si l'endroit est pollué, si l'endroit est sain ou pas. Oui. Ça nous permet vraiment de bien vivre.
Mais la perte de l'odorat peut entraîner une grande souffrance pour les personnes qui en sont dépourvues. C'est le cas de Ami Wassidje, artiste musicienne. Elle s'est dit désocialisée par ce trouble.
Cela me fatigue. Tout le monde sent l'odeur sauf moi. Un jour, il y avait une souris morte dans la chambre. Tout le monde se plaignait de l'odeur, mais je n'ai rien senti. Je ne connais pas la cause.
Mais perdre son nez n'est pas forcément un handicap pour d'autres. Abdramane Sako, enseignant, affirme avoir grandi sans connaître le goût de sentir. Il les vit sans problème, dit-il.
Je suis né avec, c'est en grandissant que j'ai commencé à savoir que je ne sens pas parce que je vois les autres sentir. Telle odeur est bonne, telle. Ou finalement, ce qu'ils expriment là, à travers l'odorat, moi je ne l'ai pas. Moi ça ne me dit rien du tout. Hein. Je ne sais pas si j'ai gagné quelque chose ou si j'ai perdu quelque chose en essayant. Moi je le vis normalement et je n'ai jamais essayé de le traiter.
Quand on ne sent rien, c'est qu'on souffre peut-être de l'anosmie selon les médecins. Ces troubles se traduisent par l'absence ou la diminution de l'odorat. Ils s'expliquent par plusieurs facteurs, indique Alain Somboro, assistant médical ORL à Bakas, qui reçoit souvent des cas.
3 à 4 patients par mois. Il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils ne sentent rien. Donc les troubles de l'odorat peuvent être passagers ou définitifs. Ils sont rarement congénitaux de naissance. Après l'examen du malade, comme il y a plusieurs causes là, donc c'est en fonction de ça qu'on traite.
Alors Alain Somboro, comment protéger cette sensibilité olfactive?
Il faut éviter donc les infections du nez, les allergies saisonnières telles que les rhinites allergiques, surtout les traumatismes crâniens, les sinusites graves. Ou parfois, il y a certaines personnes qui font une radiothérapie contre un cancer peuvent entraîner une perte de l'odorat. Voilà, donc il faut vraiment porter les casques pour les jeunes.
Les spécialistes de la santé soulignent également qu'il y a un lien entre l'odorat et le goût. Perdre l'odorat, c'est aussi perdre le plaisir de manger, indique-t-il.